Ok, alors, bonker tov, lekoulam. Boker
Boker
tov.
Rav. Boker
Alors, je suis en plein déménagement, effectivement, c'est pour ça que je ne fais pas le cours dans ma maison, parce que voilà, c'est le balagan, les gens sont en train de prendre les cartons. Donc, j'ai trouvé un autre endroit pour faire le petit cours, Bezrat Hashem. Et nous
On voit pas
sommes
les
aujourd'hui
cartons derrière.
notre dernier cours sur le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook dans l'histoire de la Kabbalah. Et aujourd'hui, en vérité, ça va être un cours un tout petit peu particulier. Je fais quelque chose qui n'est pas de ma prérogative, puisque normalement, moi, je suis cantonné à l'histoire. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est à cause du déménagement. Donc, vous mettrez ça sous le coup du déménagement. On ne va pas étudier l'histoire du Rav Cook, puisque ça y est, on a passé deux cours à parler de l'historique du Rav Cook. Mais j'aimerais qu'ensemble, eh bien, on passe un tour d'envol sur la Torah du Rav Kouk. On a commencé la semaine dernière, mais j'aimerais qu'on arrive comme ça sur des parties de son enseignement. On ne va évidemment pas pouvoir tout couvrir, bien sûr, mais histoire d'avoir une vision plus globale de quelle était la particularité de l'enseignement du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook, eh bien, je vous ai pris des morceaux choisis de son enseignement. Alors, il y a des choses qui sont très connues, des choses qui le sont moins, mais nous avons expliqué la semaine dernière et il y a 2 semaines que le Rav Kook avait une particularité incroyable, c'est qu'il était le Rav qui va accompagner la résurrection du peuple juif en terre d'Israël. Et vous comprenez que cela ne peut pas se mettre dans la même catégorie que un grand rabbin. Il y a des rabbanim qui sont roé, ils sont manigim sheldor, qui sont ce qu'on appelle des gdoléador. Ça existe, des gdoléador, des gens qui vont être les références de la génération. Mais il y a des rabbins, et le Rav Kook évidemment en fait partie, le Rambam en fait partie, qui sont des manigé adorot. Leur influence n'est pas tant dans leur génération que dans toutes les générations qui vont arriver après eux. Et le Rav Kook s'inscrit dans cette poignée de rabbins qui vont avoir une influence non pas sur leur génération, mais sur toutes les générations qui vont les succéder. Je donnais l'exemple du Rambam. À l'époque du Rambam, à part sa communauté, les autres personnages du monde juif ne l'aiment pas beaucoup. Bon, j'exagère un petit peu tous, mais il y a une énorme itnagdout au Rambam. Il y a beaucoup d'anti-Rambam à l'époque. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le Rambam. Prenez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce qu'on peut faire sans Rabbi Shimon Bar Yochai, le Sefer HaZohar? Seulement, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, lo somchim bederech klal al Rabbi Shimon la halacha. On ne suit pas son avis. Aval beshatatra qu'on peut. Mais ça veut dire que à son époque, il n'était pas le rabbin qui était le décisionnaire pour la génération de son époque. Alors, des fois, oui, évidemment, mais de manière générale, c'est plus Rabbi Yehuda Bar Ilaï et non Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas se passer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, le Rav Kook, c'est la même chose. Ce qu'il nous dit, le Rav Kook, eh bien, à son époque, est compris par deux personnes trois quarts. Je dis deux personnes trois quarts parce que, allez, j'exagère, trois personnes un quart. Il y a son fils, le Rav Tzvi Yehuda, il y a le Rav Anazir, il y a le Rav Kharlap, et peut-être encore un quart de personne. Si tu mets tout bout à bout, tu arrives à un quart de personne. C'est-à-dire que l'enseignement du Rav Kook à son époque, c'est tellement un chidouche que les gens ne le comprennent pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas sans. Alors, je vous propose ce matin de rentrer dans un petit peu de l'univers du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook. Alors, allons-y. On commence par le commencement. Vous étudiez le Sefer Oroth avec le Rav Cherki, donc vous connaissez très bien le sujet. On va utiliser la première phrase, en fait les deux premières phrases du Sefer Oroth. Nous dit le Rav Kook, Eretz Israël einena davar chitzoni kinyan chitzoni la'uma, rak betoch emtsai la'matara shel ha'itagdut ha'klalit ve'achzaka kiyuma ha'chomri afilu ha'ruchani. La terre d'Israël n'est pas un plateau sur lequel le peuple juif peut se rassembler. Comme tu aurais pu le penser, parce que toutes les autres terres sont un plateau pour les peuples qui s'y sont installés. C'est-à-dire, les peuples se sont créés, les nations se sont créées, parce qu'ils étaient sur le même plateau, et donc ils ont décidé de lier leur destinée ensemble. Alors que le peuple juif a décidé de venir en terre d'Israël. Ainsi donc, la terre d'Israël n'est pas un plateau chitsoni. Il est l'essence du choix du peuple juif de venir en terre d'Israël. En d'autres termes, le lien qui unit la terre d'Israël et le peuple juif n'est pas un lien naturel, mais c'est un lien basé sur le choix, un lien moral. Et c'est ce qui amène le Rav Kook à dire la deuxième phrase. « Eretz Israël hi chativa tzmutit kshura bekesher chayim im ha'uma chavuka bezgulot penimiyot im metziyuta » Nous dit le Rav Kook, la terre d'Israël, alors c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui permet de donner la vie. L'union du peuple juif et de la terre d'Israël n'est pas un lien naturel, mais un lien de zougiout. Le lien qui unit les peuples à leur terre est un lien de paternité ou de maternité naturelle. Les Français appelleront donc la France la mère patrie. Alors que le choix de sa kala n'est pas obligatoire. Je peux choisir de marier avec ma femme ou ne pas me marier avec ma femme. Je peux même choisir de la répudier et de divorcer. C'est un choix de se marier. Eh bien, le choix du peuple juif de venir en terre d'Israël, bien que ça a été promis par Dieu, on peut décider de ne pas venir. Eh bien, le fait que nous ayons choisi crée un lien de vie qui donne la vie. C'est un lien de Khatan et Kala. Eh bien, les amis, est-ce que vous pouvez imaginer ce que cette phrase va avoir comme effet bombe nucléaire dans une génération où la résurrection nationale est en marche, où le sionisme commence à s'exprimer, mais où la Torah ne s'y retrouve pas? Alors oui, bien sûr qu'il y avait des rabbins qui étaient très sionistes, il n'y a pas de problème, mais de manière générale, le son de cloche entendu par les détenteurs de la Torah, c'est que ben, tu es en Israël, c'est bien, tu n'es pas en Israël, tu peux quand même faire la Torah. Combien de fois on a entendu cette phrase encore aujourd'hui? On peut être un bon juif partout. Eh bien, nous dit le Rav Kook, le lien qui donne la vie, c'est lorsque le peuple juif est en terre d'Israël. Un peuple juif non en terre d'Israël, c'est un lien qui ne donne pas la vie, qui n'est pas inscrit dans l'éternité. Alors, c'est inscrit dans longtemps, hein, 2000 ans d'exil, c'est quand même long. Mais ce n'est pas le Netzach. Ce qui crée l'éternité dans un couple, eh bien, c'est le fait qu'ils ont décidé de Areat Mekudesh Etli. C'est qu'ils ont décidé de lier leurs deux dimensions. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose que le Rav Kook nous dit. Maintenant, la deuxième chose que le Rav Kook nous dit, et ça sera la fin de notre étude sur Eretz Israël, eh bien, c'est que dans le chapitre 2, ce n'est pas le peuple qui a choisi la terre, mais Dieu. Oui, évidemment, Dieu a choisi que le peuple juif, son endroit de prédilection, c'est la terre d'Israël. Mais nous, on a très bien pu choisir de ne pas sortir d'Égypte. On peut choisir de rester dans le désert. Alors évidemment, Dieu, il ne veut pas, donc il va tout faire pour qu'on choisisse comme il faut. Mais au final, c'est nous qui avons choisi. Que ce soit à l'époque de Moshe ou à notre époque, la résurrection nationale, le fait que le peuple juif ait choisi de se reconstruire son identité en terre d'Israël n'était pas du tout évident. Et vous n'avez qu'à vous remémorer le congrès de 1903 et la proposition de l'Ouganda. Ce n'est pas évident de choisir de revenir en terre d'Israël. Bien que HaKadosh Baruch Hu, pour lui, c'est ça qu'il faut faire. Mais je parle de notre point de vue, nous avons quand même choisi. Donc le Rav Kook va également, donc ça c'est le premier pilier incroyable, le lien qui t'unit à la terre d'Israël, c'est le lien qui donne la vie à ton identité. Ensuite, il y a un deuxième enseignement. Le Rav Kook nous dit, mais comment ça se fait que tout le monde ne comprend pas ça? Je ne comprends pas. Tout le monde devrait comprendre. C'est d'une évidence tellement grande. Et le Rav Kook, Aliyede itrachakut me'akarat arazim, ba'akara shel kedushat eretz Israël betzura metushteshet. C'est lorsqu'on s'éloigne de la Kabbalah, lorsqu'on s'éloigne des secrets de la Torah, alors c'est à ce moment-là que notre compréhension de la Kedusha de la terre d'Israël devient metouchteshet. Mazé metouchteshet, c'est-à-dire que nous ne comprenons pas véritablement quelle est la Torah, quel est l'enseignement. En d'autres termes, nous dit le Rav Kook, tu ne peux pas comprendre ce que nous sommes en train de vivre si tu n'étudies pas Torah Tassot. En d'autres termes, c'est le deuxième effet boomerang. Non seulement la terre d'Israël et le peuple juif sont liés par un lien de Khatan Vekala, Chidush Atzum, et en plus de ça, tu ne peux plus aujourd'hui ne pas étudier Torah Tassot. Tu ne peux pas. Pas possible. Parce que si tu n'étudies pas Torah Tassot, toute ta compréhension sera metouchteshet. Ok ? Ça, ce sont les deux points essentiels de son livre Oroth Eretz Israël. Ensuite, dans le livre qui suit, qui s'appelle Oroth Amilchama, eh bien, nous dit le Rav Kook que l'évolution, plus les shinuim, plus les révolutions, plus les guerres sont grandes, plus elles sont porteurs d'un espoir messianique. En fait, c'est quoi le messianisme, la meshichiyut dans le judaïsme? Eh bien, c'est la volonté d'amener le monde à être meilleur, d'amener le monde à être plus en phase avec ce qu'il devrait être et de lui permettre de dévoiler Dieu. Pour cela, il y a des shinouim, des changements qui sont adragatim, c'est-à-dire qu'ils sont doucement, doucement. Il y a des changements qui sont doucement, doucement. Et aujourd'hui, on est conscient de cela. Par exemple, il y a certaines découvertes technologiques, découvertes médicales, découvertes qui permettent d'aller mieux et qui se sont faites doucement. Mais plus il y a un événement énorme qui chamboule le monde, plus l'espoir d'un changement est grand. Le Rav Kook ne veut pas du tout de guerre, il n'aime pas la guerre. Personne ne veut de la guerre. Mais d'ici déjà, il y a une guerre. Alors, il faut être conscient que la guerre, c'est le chamboulement le plus énorme qui soit. Et donc, eh bien, s'il y a une guerre et plus cette guerre est grande, plus l'espoir d'un dévoilement messianique, donc d'un monde qui va mieux après, est grand. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis plein d'espoir par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Parce que je vois l'évolution des mentalités, pas chez les politiques, mais chez le peuple et ses représentants véritables, à savoir nos soldats qui sont sur le front. Nos soldats qui sont sur le front sont nos représentants véritablement légitimes. Et eux, eh bien, ils ont arrêté d'être en scission religieux par religieux, gauche, droite, gros, maigre, maigre, ce que tu veux. Il y a une véritable unité au sein du peuple d'Israël grâce à nos soldats d'Israël. En d'autres termes, eh bien, nous dit le Rav Kook, plus le changement est drastique, plus il peut amener en lui un espoir de réussite. Et puis, il y a le livre qui s'appelle Oroth HaTehillah. Alors, qu'est-ce que c'est que Oroth HaTehillah, Rabotai? Eh bien, Oroth HaTehillah, Oroth HaTehillah, c'est l'explication de manière audible. Parce qu'il y a l'explication que vous êtes en train d'étudier avec le Rav Cherki qui s'appelle Israël ou Triato, qui est vachement plus compliqué, parce qu'en fait, dans Israël ou Triato, le Rav Kook parle de manière ésotérique, parle de manière théorique, alors que dans Oroth HaTehillah, il nous réexplique ce qu'il a dit dans Israël ou Triato, mais de manière beaucoup plus concrète. Mais ça a l'air. Eh bien, le Rav Kook, dans Israël ou Triato, dans le dernier chapitre de Israël ou Triato, va nous donner sa conclusion sur ce que c'est que la résurrection du peuple d'Israël. Eh oui, qu'est-ce que c'est que cette conclusion? Qu'est-ce que c'est que la finalité de la résurrection nationale? On est en droit de se poser la question. Tu n'arrêtes pas de nous parler de ce que ça fait, ce que ça fait, ce que ça fait. C'est quoi la finalité de tout ça? Eh bien, hop là, j'y arrive. Hop là, attends. J'y suis presque. Voilà. Yofi. Donc, comme ce n'est pas mon ordinateur, c'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. C'est bon. Yofi. Advekut. הרצונית והמדעית, הדמיונית והמעשית, כשהן מתארגנות ביחד, הן פותחות את צינורות החיים של תללי הרצון אשר לחיי העדינים, חיי האמת, שאין קצה לאושר כבודם ולזיו מתקם, אשר צדיקים הרואים עולמם בחייהם יודעים ומרגישים קצת אורכם. Nous dit le Rav Kook, la dvekout, c'est-à-dire le fait d'être collé à quoi? À son, sa volonté, à ses réflexions. Lorsque tu es entier avec toi-même, que donc tu as réussi ta transition et ta résurrection, alors c'est ça qui te permet de dévoiler ta lele aratson shel hachayim, chaye haemet. C'est en fait, c'est ça qui te permet de dévoiler Dieu. Et c'est pour ça que conclut le Rav Kook en disant « Yakoum Israël al raglav » Le peuple juif va se lever d'un seul homme. « Yitromem bigvura be'eretz remdato » Lorsqu'il va se lever en terre d'Israël, il sera beau gosse. C'est une traduction libre de ma part. « Yavia et imrat nevuato » Il pourra enfin donner son message de prophétie. « Mekor chay nishmato » qui est l'essence même de son âme. Ah, la citation, c'est la fin, toute fin de Orot Atechia, dans le chapitre Aïn Bet, 72. Yakit Fletria et Garinea Chaim Elohim, Anirdamim Belev Kol Adam Vechai, Kol Aneshama Tealelia, Alléluia. Ah, très bonne question. En quoi l'étude de la Torah Tassod amène un lien avec la terre d'Israël. Nous l'avions expliqué, je crois, au tout début de notre étude sur l'histoire de la Kabbalah. La Torah Tassod, c'est le vestige de la prophétie. D'accord ? Or, la prophétie n'est que en Eretz Israël. Et là, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais non, la prophétie, ce n'est pas que en Eretz Israël. Il y a eu Moshe Rabbeinu en Égypte. Il y a eu Yeheskel à Babylone. Ah, bonne kushia. Ainsi donc, je serai obligé de vous répondre de la manière suivante. Le dit la Gemara dans le traité de Megillah. Avant qu'on rentre en Eretz Israël pour la première fois avec Yehoshua, alors on pouvait dévoiler la Kdusha d'Eretz Israël ailleurs. C'est pour ça que Moshe, il peut avoir sa névoie en Égypte. Mais ça ne répond pas au problème de Yeheskel. La même Gemara nous dit la névoie, elle est soit en Eretz Israël, soit pour Eretz Israël. Et donc, la Gemara pose la question pour Yeheskel et dit la névoie, elle est soit en Eretz Israël, soit on a dit avant qu'on rentre, partout c'est faisable, soit pour Eretz Israël. Et ainsi, la névoie de Yeheskel est une névoie complètement tournée vers le fait qu'on va revenir d'exil. En d'autres termes, eh bien, si la Torah Tassod est le vestige de la névoie, eh bien, elle aussi, elle ne peut véritablement se comprendre que soit en Eretz Israël, soit pour Eretz Israël. Ok, donc je termine la phrase. Nous dit Yakit Zetria et Garina Chaim Elohim Anirdamim Belev Kol Adam Vekol Chai, c'est-à-dire cette capacité à dévoiler Akadosh Baruch Hu, puisque c'est l'essence de notre âme de pouvoir dévoiler le message prophétique. À ce moment-là, eh bien, on pourra ressusciter les noyaux, pas les noyaux, les Garinim, oui, c'est les noyaux. Les noyaux de chaque vitalité qui était asséchée jusqu'à maintenant. Et le Rav Kook termine en disant Kol Aneshama Te Alelia, Alléluia. C'est énorme. C'est énorme. Alors ça, c'est l'enseignement de ce qu'on appelle le livre Oroth. Alors évidemment, vous le savez, le Rav Kook n'a pas écrit que le livre Oroth, qui comprend Oroth Eretz Israël, Chama, Sfaloutiato, Atechia. Il a écrit un autre livre également qui s'appelle, vous le savez, qui s'appelle Oroth HaTeshuva. Oroth HaTeshuva. Alors qu'est-ce que c'est que Oroth HaTeshuva? Vous l'aurez bien compris, c'est essayer de comprendre un petit peu ce qu'est la Teshuva. Alors vous allez me dire, mais il y a plein de gens qui ont écrit. Il y a plein de gens qui ont écrit sur la Teshuva. Pourquoi est-ce que le Rav Kook il a besoin de venir et de nous écrire Oroth HaTeshuva? Eh bien, le Rav Kook va justement expliquer cela dans son introduction. Certes, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur la Teshuva, Hilchot Teshuva du Rambam, mais personne n'a inscrit cette Teshuva dans la résurrection nationale. Donc on est bien obligé d'expliquer cela. Et le Rav Kook explique le premier point de son Oroth HaTeshuva, c'est quelque chose de fantastique, parce que jamais on n'a entendu un rabbin parler comme ça. La première étape de Oroth HaTeshuva nous dit, la première Teshuva, il est, je lis, dans le chapitre 1 de Oroth HaTeshuva, « Atshuva tiv'it, la Teshuva naturelle, yesh shnei chalakim ba. » Elle a deux dimensions. La première, Atshuva tiv'it agufanit, Atshuva tiv'it anafshit. Agufanit sovevet et kol ha'averot neged chukei ha'teva, ha'musar ve'ha'torah, ha'mekusharim im chukei ha'teva. Shesof kol ha'naga ra'a, ule'avi machalot u'machovim, ve'arbe sovel mize ha'adam ha'prati ve'ha'klali. Nous dit le Rav Kook, c'est quoi la première tshuva à faire? La tshuva naturelle physique. C'est-à-dire, je traduis de traduction libre, fais du sport. C'est-à-dire, nous dit le Rav Kook, c'est quoi cette teshuva? C'est une teshuva contre tout ce qui va faire en sorte que tu vas amoindrir les forces de ton corps. Mal manger, mal dormir, être sédentaire trop, ne pas bouger. Ça n'a rien à voir avec la Torah, va voir un nutritionniste. Eh ben non, le chidouche du Rav Kook, c'est Torah. Le fait que ton corps il marche bien, c'est Torah. Et ça, c'est. On n'a jamais entendu ça. Et après, la tshuva tiv'it anafshit, c'est le moussard. On ne parle pas de Torah encore. On ne parle pas de halakhot. On parle d'être quelqu'un de moussari, de moral, de faire le choix du bien. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif ou pas juif, d'ailleurs. Eh bien, c'est comme ça que le Rav Kook nous dit, si tu ne commences pas avec ça, avec ces deux niveaux-là, ne viens pas me parler de Torah. Ne viens pas me parler de Shabbat. Eh oui, mais c'est un mahapar énorme. Mais pourquoi c'est tellement un mahapar? Parce qu'on est dans une génération où justement le Rav Kook voit les jeunes. Ah, ça, je ne vous ai pas dit ça. Ah, vous voyez, dans Rotatria, une autre piska de Rotatria, le Rav Kook dit quelque chose de fantastique. C'est une piska incroyable que le Rav Tzvi Yehuda, son fils, lui a dit de ne pas mettre dans le livre. Il dit, si tu dis ça, les gens ils vont me tomber dessus. Et le Rav Kook, il me tombe déjà dessus, de toute façon. Et deuxièmement, Torah, alors c'est quoi? Dans Rotatria, hein, si je ne me trompe pas, c'est Samer Dalet, un truc comme ça, la Pisca. Hein. Le Rav Kook, il dit, lorsque les jeunes juifs vont s'entraîner et faire du sport, lorsque les enfants jouent au foot, lorsque les enfants. Alors, bon, là, en l'occurrence, ce n'était pas seulement le foot, c'était aussi les entraînements de la Haganah, les entraînements des jeunes Israéliens de l'époque à se battre, à redevenir forts. Il dit Kshe Bachurei Israël oskim begvura fizit, ça aide les Mekoubalim à faire des Yichudim Bashamay. Parce qu'un peuple juif qui est en bonne santé, fort et que quand tu le vois, tu n'as pas l'air d'un misken, eh bien, c'est ça qui aide aux gens qui étudie les secrets de la Torah de mieux les comprendre. Il y a une interdépendance entre les Skenim qui étudient et les Bachourim qui jouent au foot. Ouais, c'est fantastique. C'est fantastique. Mais pourquoi? Mais parce que tu ne peux pas, si tu es Misken, non seulement dévoiler aux autres, parce que les autres ils te voient en tant que Misken, mais toi non plus. Arrêt la Torah, c'est un tout. Le dévoilement divin, c'est un. Et donc, tu ne peux pas être un mec au top dans ta réflexion, mais malade. Alors, vous allez me dire, mais il y a des rabbins qui ne sont pas en bonne santé. Tshuva, Nachon. Et ils auraient été encore plus forts s'ils avaient été en bonne santé. Plus forts dans la Torah, je parle. Nachon. Agave, le Rav Kook l'écrit lui-même. Lorsque, à la fin de sa vie, il sera très malade, eh bien, il écrit que ça l'empêche de bien comprendre la Torah. Un, parce que la douleur physique fait que tu n'es pas toujours concentré. Et deux, le simple fait de savoir qu'on n'est pas au top de son énergie, ben, ça influe sur notre réalité. Donc, nous dit le Rav Kook, Orot HaTshuva Perek Aleph, va faire du sport. Dans le chapitre 7, le Rav Kook nous dit, dans Orot HaTshuva toujours, quelque chose de là aussi absolument incroyable. Il faut tsarich le'amin bebitron ha'teshuva. Il faut croire à la force de la teshuva. Pourquoi? Sha'filu ad kedekar, sha'filu zikaron shel kol chet, yemale oti regesh shel simcha atzuma. C'est la force de la teshuva, c'est de dire que même lorsque je me rappelle de mes fautes, animale simcha atzuma. Pas parce que j'étais là-bas, j'ai changé, je ne suis plus. Ce n'est pas ça. Je me remplis de simcha parce que je ne suis plus en train de vouloir faire la faute. Et donc, je comprends que mes actions, même lorsqu'elles étaient erronées d'après la halakha, ont joué un rôle dans le dévoilement divin. Je ne peux pas dire ça tant que j'ai envie de faire mes fautes. Parce qu'à ce moment-là, hey, je joue sur les deux tableaux. Non, j'ai plus envie de faire mes fautes. Je ne les fais plus. Mais une fois que j'ai compris cela, alors je me rends compte qu'en fait, ben, Dieu il s'est dévoilé aussi par mes fautes. Et en fait, je me rends compte a posteriori que toute ma vie a été au service d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux dire cela que lorsque je suis détaché, évidemment, de ma faute. Alors, on parle de Roth, on parle de Roth à Teshuvah, sauf qu'à un moment donné, le Rav Kook nous dit que la résurrection nationale a évidemment une influence fondamentale sur notre façon d'étudier la Torah. Eh bien, c'est tout à fait naturellement que le Rav Kook va donc nous dire, va nous écrire un livre sur Mahout à Torah. Puisque la Torah de notre génération doit être une Torah, la compréhension de la Torah doit être différente, eh bien, c'est tout à fait normal qu'il écrit un livre qui s'appelle Orot à Torah. Eh oui, parce qu'on n'étudie pas la Torah de la même façon, Bagalout, Vebegeoula. Ce n'est pas possible. Et donc, nous dit le Rav Kook, Orot à Torah. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans le chapitre 1 de Orot à Torah, nous dit le Rav Kook, Torah shebealpe munachat be'etzem ofia shel ha'uma, shematz'a et birkata al yede agilui ha'shmeini shel Torah shebirtav. Be'itgaluta nemucha hi Torah shebealpe mi Torah shebirtav, ki hare agorem ha'rashi limtso et netivata hi ha'Torah shebirtav. היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנצח וההוד שבעולמים, ולמעלה של כל הכללותם. אבל בצורה פנימית, הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם, הפנימית העליונה, הרי גרמה סגולה אלוהית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים עליהם, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב. Chavivim divrei sofrim yeter mi divrei Torah. Ça, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? En fait, c'est d'une simplicité, il continue dans le chapitre 3 pour aller plus loin, mais c'est d'une simplicité tellement évidente, pourtant, ben on ne nous l'a jamais dit. On nous a toujours enseigné que la Torah chez Béalpé, la Torah orale, était l'explication de la Torah écrite. Nous dit le Rav Kook, mais tu n'as rien compris. L'essence de la Torah écrite, c'est la Torah orale. L'origine de la Torah écrite, c'est la Torah orale. Ça ne peut pas être son explication. C'est l'origine. Et d'où on sait? En fait, c'est marqué dans le texte. Quand il y a marqué « Vaïdaber Hashem el Moshe le Morda, Berel Ben Yisrael, Vamartalem, Vassoulem, Tzitzit » Alors, une fois que Dieu a fini de dire la mitzvah des tzitzit à Moshe, qu'est-ce que Moshe a fait? Eh bien, il a fait ce que Dieu lui a dit, à savoir les morts, Daber el Bnei Israël. Donc, il a rassemblé les Bnei Israël, il leur a enseigné la mitzvah des tzitzit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël après? Ben, ils ont fait des tzitzit. Et c'était marqué où? Nulle part. Puisque la Torah Shebirtav a été écrite bien plus tard. En d'autres termes, la Torah, elle est fondamentalement, essentiellement, d'abord Béalpé, et ensuite Birtav. OK? Et donc, nous dit le Rav Kook, évidemment, tu as l'impression que la Torah Shebirtav, elle est plus forte que la Torah Shebéalpé, parce qu'elle vient directement de Dieu. Alors que la Torah Shebéalpé, c'est l'explication qui vient des Chachamim. Oui, sauf que, en essence, qu'est-ce qui donne aux Chachamim la force de comprendre Torah Shebéalpé? La neshama du peuple d'Israël, qui est l'expression de la Torah. En vrai, en français, c'est parce qu'on est le peuple juif que Dieu nous a donné la Torah au Sinaï. Si on n'avait pas été le peuple juif, on n'aurait pas reçu la Torah. Donc non, on n'est pas devenu un peuple depuis qu'on a reçu la Torah. On était un peuple, et c'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Mais c'est, vous comprenez que c'est révolutionnaire ce qui est en train d'être dit ici. Alors on a parlé de Orot, Orot Eretz Israël, Amilchama, Orot Atria, Orot Atshuva, Orot Torah. Évidemment, comment parler de l'enseignement du Rav Kook sans parler de son livre de Kabbalah? Bon, vous allez me dire, tout est de la Kabbalah chez lui, Zenachon. Mais il y a un livre dans la série des Orot qui est Kol Kulo Kabbalah. Tout d'abord, entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, ben, oui, bien sûr. Le premier rabbin, c'est Moshe. Donc d'abord, la Torah chez Béalpé, elle vient de par Moshe, bien évidemment. Mais ça ne change rien au débat. OK? Donc, nous dit le Rav Kook la chose suivante. Dans le livre Orot HaKodesh, OK? Dans le livre Orot HaKodesh, Bechelek Bet, de Orot HaKodesh, il y a un enseignement qui s'appelle Shir Meruba. La chanson quadruple. Et dans ce texte-là, le Rav Kook emmène toute, on va dire, l'idéal de sa Torah, l'idéal de son message. On a déjà expliqué la semaine dernière que le Rav Kook, c'était la Torah de l'unité. Eh bien, regardez ce qu'il nous dit. Yesh sheushar shirat nafsho. Ubenafsho motzet akol et melo asipuk aruchani bemilu. Donc, il y a des gens qui sont des individualistes. Leur chanson, c'est le shir de leur âme, de leur essence. Ce qui leur intéresse dans la vie, c'est eux. C'est ce qu'on appelle shir pashut. Aval, nous dit le Rav Kook, yesh sheushar et shirat ha'uma. Ils chantent le chant national. Yotzeu mitoch ha'ma'agal shel nafsho apratit, she'eino motze ota meruchevet karaoui ve'lo meyushevet yishuv ideali. Shoef limro me'oz. והוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל, ואימה אושר את שיריה, מצר את מצורותיה, משתעשע בתקוותיה, הוגה דעות עליונות ותאורות על עברה ועל עתידה, חוקר באהבה ובחוכמת לב את תוכן רוחה הפנים. Il y a donc un homme qui lui se revendique un homme collectif national. Il chante la chanson de la nation. Il est heureux lorsque la nation est heureuse. Il est triste lorsque la nation est triste. Il vit au rythme du peuple juif. C'est ce qu'on appelle Shir Kafoul. Ve yesh asher od titrachev nafsho ad sheyetze vetitpashet me'al gvul Israël. La Shir et Shirat Adam. Rucho olech umitrachev begeon klalut Adam vehod tzalmo. Shoef el teudato akelalit umetzape leishtalmuto elyona. Mimekor chayim ze ushoef et klalut egyonotav mechkarav sheifotav vechezyonotav. Il y a quelqu'un qui va encore plus loin. Il ne se suffit pas à la nation, il est un être humain, il est un humaniste. Il chante la chanson de l'humanité. Zeshir Meshulash. Et puis, Veyesh od mize ma'ala le ma'ala berocha vitnase. Ad she mit ached im kol ha'yikum kulo, im kol ha'beriot ve im kol ha'olamim, ve im kulam omer shira. זה העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן העולם הבא. On a un quatrième personnage qui lui se connecte avec le cosmos. Ok? Zeshira, ce qu'on appelle Shir Meruba, Zeshir Arevi. Je suis connecté avec la création. Va nous dire le Rav Kook, attention. Attention. Yesh, veyesh asher ole im kol ashirim alalu beyachad beaguda echad. וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד החיים. וכל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חלדווה וכל קדושה. Parce que le danger, c'est lorsque chacun des quatre ben, vit en séparation des autres. Le mec qui est qu'un individualiste, il s'en fout du reste du monde et de son peuple, c'est pas cool. Le mec qui est que nationaliste, il s'en fout de sa propre personne et il délaisse sa femme et ses enfants pour aller tout le temps faire des manifestations. Le mec qui est un fan de l'humanité, il s'en fout du peuple juif. Le mec qui est un fan des plantes, ben le problème, c'est que des fois, avec les hommes, il se comporte mal. Donc, nous dit le Rav Kook, le top du top, c'est Ashir Achamishi, qui fait l'union des quatre. Veyesh Asher Ole im kol Ashirim alalu beyachad baguda echad. וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד וחיים, כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה, שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולם יחד מתמזגות בקרבו, וכל
Vous êtes avec moi?
Je vous avais perdu 5 secondes. Allô,
ouais, Rabetan, ça a coupé.
Ça y est, je suis là.
Ouais,
c'est bon.
Tu peux reprendre.
Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Bekitso, Kulam Yachad mitmasgot bekirbo bechol et ou bechol sha'a. Ou veatmimut azot, c'est-à-dire ashlimut azot, bemilua olahi liot shirat kodesh, shirat hel, shirat Israël, beuzam. עוזה ותפארתה, בעוצם אמונתה וגודלה. ישראל, שיר אל. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובה. שיר השירים, אשר לשלומו, למלך שהשלום שלו. C'est un texte fondamental. Le Rav Kook nous dit, c'est uniquement dans l'unité de toutes les valeurs que tu peux trouver la dimension de Israël, de Shir El. Les amis, c'est tout un boulot. C'est tout un programme. Et là, on n'est passé que sur les Orot. Il y a également le commentaire de la Tfila du Rav Kook, qui s'appelle Olat Reiya. Olat Reiya, fantastique également. On ne peut pas ne pas en parler. On nous dit, le Rav Kook, et c'est un commentaire du Sidour. Donc, il commence évidemment par la première phrase du Sidour, à savoir Modé Ani. Et là, le Rav Kook va dire ben, un enseignement tellement extraordinaire, tellement fort sur le modé Ani. Iné. Ani. Qu'est-ce que ça veut dire Ani? Vous savez ce que ça veut dire Ani en hébreu? Ne me dites pas moi. Je. Ani, ça veut dire à An Sheli. An Ni. An Sheli. Ça veut dire quoi, An? Les An Taoler. An, ça veut dire makom. Ani, c'est makom sheli baolam. C'est fondamental, les amis. Donc, nous dit le Rav Kook sur le mot ani. Adam motse et atzmo beatzmo. L'homme se retrouve face à lui-même. Aliede a or achaim a Elohim a mofim bekirbo. A memalim oto beruach atov shel regesh atoda shel ha'akara atova Elohim beatavata. C'est parce que je suis quelqu'un qui a reçu la vie de l'extérieur que je peux être heureux. Pourquoi ? L'homme, il est faible dans ce monde face, je sais pas moi, aux chutes du Niagara. C'est cloum, ani cloum. Neged kol hayikum hagadol ve'atzum ve'kochot habria adirim vaniflaim ha'otrim oto. Mirov shimemon leumatam oved ha'adam et tochen ha'ani shelo. Je suis face aux chutes du Niagara, je me dis, mais qui je suis, moi? Je suis tout petit. Je suis face aux galaxies. Miani, Ani Kloumnik. Omnam. Be'ahir alav oto haor, shel hakara tova Elohim. וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש שהיא מאירה בקרבו. אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו באלף, והיעדר ביטולו בכללות ההוויה. Je suis petit, je suis rien du tout, נכון, mais celui qui a créé les galaxies, les chutes du Niagara, il m'a créé moi aussi. Donc puisque ma vie, elle me vient de Dieu, alors מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא, אני. J'ai une place dans ce monde. Puisque celui qui a créé l'existence tout entière, il m'a créé moi aussi. Donc ça veut dire que j'ai une place dans cette existence. Les amis, vous comprenez qu'on est, on est sur du très très lourd. Alors, il y a un commentaire du Sidour, il y a la série des Horot, il y a évidemment toutes les lettres du Rav Kook dans les Grottes Reïa, mais je voudrais qu'on termine aussi sur sa shita ilchatit, sur sa shita de halakha, parce que le Rav Kook était aussi un des plus grands poskim de la halakha. Et le Rav Kook, on avait, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais pour terminer comme ça, on se remet dans l'ambiance. D'abord, comprenez-moi bien, il y a plein de livres qu'on n'a pas évoqués, d'accord ? Il y a plein de livres que ben voilà, j'ai pas en 50 minutes, je n'ai pas le temps d'évoquer tous les livres du Rav Kook pour Audrey. J'espère avoir donné une vision générale de la Torah du Rav Kook, de son message, mais je voudrais que vous ne pensiez pas que c'est qu'un Ogedeot, que c'est qu'un grand personnage qui réfléchit. Le Rav Kook était un Posek Halakha, un Posek Halakha jusqu'au bout des ongles. Le combat qu'il prend sur la Shemitah est un combat de Halakha. Mais la Shita, la Shita du Rav Kook au niveau de la Halakha, c'est l'union de la Halakha et de la Kabbalah. L'union de la Halakha et de la Kabbalah. Dans le Talmud de Babylone, il y a une séparation très claire entre Halakha et Agada. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. À tel point qu'il y a dans le Talmud, il y a un traité du Talmud où tout un chapitre entier, c'est de la Haggadah. À savoir le Talmud qui s'appelle Maseret Sanhedrin. Et dans le traité de Sanhedrin, il y a un chapitre qui s'appelle Perek Chelek, qui commence par la Mishnah Kol Israël Eshtaim Chelek Leolam Haba. Eh bien, il est Kol Kulo Haggadah. Le Seder. Dans la Mishnah, qui est Eretz Israélienne, eh bien, ce chapitre est le dixième. Il y a un onzième chapitre qui reprend d'autres problèmes halakhiques. Dans le Talmud de Babylone, ils ont changé l'ordre. Où le Perek Chelek est le dernier chapitre du Talmud de traité de Sanhedrin. Comme pour dire, la halakha c'est d'un côté et on met la Haggadah de l'autre. Dans le Talmud de Jérusalem, on a gardé l'ordre de la Mishnah, à savoir que la Haggadah elle est à l'intérieur de la halakha. Le Rav Kook nous dit que pour bien comprendre la halakha, eh bien, on ne peut pas se passer de l'étude de la Kabbalah. Parce que Torah, Halakha et Haggadah, eh bien, sont fondamentalement liés. Pourquoi ? Et là, j'aimerais terminer sur un enseignement du Rav qui est fondamental. Le Rav Kook, dans le livre Mishpat Kohen, va nous expliquer la différence entre Torah Shebirtav, Torah Shebealpev et Torah Tassod. Torah Shebirtav, c'est le Tanakh. Torah Shebealpev, la Halakha. Torah Tassod, la Kabbalah. Quelle est la différence entre les trois ? Eh bien, je vous le dis de manière extrêmement simple et en directement en français, parce que je n'ai pas Mishpat Kohen sous les yeux. Torah Shebirtav, le Tanakh, c'est pour nous expliquer qui on est. Torah Shebealpe, c'est pour nous expliquer, donc la Halakha, c'est pour nous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Torah Tassod, c'est pour nous expliquer pourquoi on le fait. Et vous comprenez donc que les trois Torahs sont intimement liés. Et c'est ce que le Rav explique lorsque, et on en avait parlé déjà, lorsque il y avait cet homme qui est venu lui demander un ishour, une teoudat kashrut, pour de l'huile de sésame qu'il avait réussi à produire. Il a demandé une teoudat kashrut pour Pessah. Et le Rav Kook lui a donné. Et une fois qu'il lui a donné, tous les rabbins de Jérusalem lui sont tombés dessus pour dire « Ah, comment tu fais ? C'est kitniot !» Et donc le Rav Kook leur a expliqué à tous ces rabbins de Jérusalem, halakhiquement parlant, pourquoi ce n'est pas kitniot ? Et il y a eu comme ça des échanges de lettres ping-pong, jusqu'au moment où les rabbins de Jérusalem lui écrivent, et c'est incroyable, on a la lettre, ils lui disent, bon, on n'a plus d'arguments, tu as raison dans tout ce que tu as dit, avaladain zaso. Et là, le Rav Kook qui dit, bon, là, vous avez exagéré. Si vous dites ça, je suis obligé de sortir le joker. Et il dit, le fait que vous continuiez à interdire, alors qu'il y a moyen, d'après la Torah, de permettre, il ne s'agit pas de permettre des choses interdites, évidemment, mais le fait, cette tendance à interdire, alors qu'il y aurait moyen de permettre, n'est absolument pas une preuve de chassidut, de piété, mais c'est justement une preuve que tu n'as pas compris la Torah. Et ça, c'est parce que vous n'étudiez pas, vous les rabbins, ils parlent à eux, vous n'étudiez pas Torah Tassod, vous n'étudiez pas Etz HaChaim, vous n'étudiez que Etz HaDaat Tov Vara, savoir la Halakha. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne vous aide pas dans votre compréhension de Etz HaDaat Tov Vara, et vous dites du Ra qu'il est Tov, du Tov qu'il est Ra, du permis qu'il est interdit, de l'interdit qui est permis, Veze Nora Vehayom. Seule une connexion entre toutes les Torotes permettra de dévoiler véritablement Akadosh Baruch Hu et le message d'Israël. Voilà la Torah du Rav Avraham Yitzchak HaKohen Kook sur un pied, la Torah de l'unité, la Torah de la résurrection nationale, la Torah qui donne la responsabilité à l'homme et au peuple juif, eh bien, de véritablement dévoiler Akadosh Baruch Hu. Voilà, vous pouvez rallumer vos micros et vous pouvez poser vos questions. Je vois qu'il y a David B. qui a levé la main.
Oui, bonjour. Tout à l'heure, quand on a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, oui. Et qu'on a dit que la halakha, on allait rarement selon son niveau parce qu'il était trop haut ou quoi, je me demandais s'il y avait des enseignements du jour.
J'ai pas dit que c'était parce qu'il était trop haut.
Non, par ça, rapport à nous, on va dire.
Ça, c'est ce qu'on dit de Rabbi Meir, mais c'est la même idée.
Oui.
Rabbi
oui.
Meir, lo poskim halakha ki Rabbi Meir bederach klal, ki lo yardu chaverav lesof da'ato. Mais bon, ça marche aussi pour Rabbi Shimon, tu as raison.
Alors, je me demandais s'il y avait aussi des enseignements du Rav Kook qui ne sont pas encore applicables en l'état actuel des choses par rapport à notre niveau, à notre manière de vivre, à notre manière de...
Tu connais la réponse. Tu connais la réponse. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui n'étudient pas encore le Rav Kook.
OK.
Non, ça veut dire, est-ce qu'au niveau de la halakha, il y a des choses qui ne sont pas applicables? Je ne pense pas, parce que n'oublie pas qu'on est déjà 120 ans après.
Oui, non, mais pas forcément la halakha, dans le...
quotidien.
Ah, il a dit des choses qui ne se sont pas encore réalisées, bien sûr.
D'accord.
Bien sûr, bien sûr. Mais on est dans le processus.
OK.
Merci. Alors, je ne vois pas qui pose la question, donc prenez la parole, faites-vous plaisir.
Je peux poser la question?
Non,
est-ce que vous pourriez répéter, bonjour d'abord, Shalom, Shir Aramesh, les cinq
chansons. La chanson oui. de l'individu, donc Shir mm-hmm. Pashut, Shirat Nafsho. Ensuite, la chanson de la nation, Shir mm-hmm. Kaful, Shirat Ha'uma. Ensuite, la chanson de l'humanité, Shir Meshulash, Shirat Adam. Ensuite, la chanson de l'existence, de la création, de l'univers, Shir Meruba, c'est Shirat Ha'yekum, de l'univers.
Et d'accord.
Ça qui fait l'union des quatre.
Merci. Merci.
Rav, j'ai vu dans le chat, quelqu'un posait la question.
Très bien.
Il me semble que c'était la cinquième. Est-ce que ce shir existe?
Alors, le Rav Kook a dit Perek, celui qui dit Perek Shira, ce n'est pas la cinquième. Perek Shira, c'est la quatrième. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le Perek Shira, il n'y a pas. Le Shirat Adam, le Shirat Adam Aprati, Shirat Uma, le Shirat Adam Aklali. Il n'y a que dans le Peret Shira la chanson des éléments, des animaux, des végétaux. Donc c'est la chanson numéro 4, Peret Shira. La chanson numéro 5, est-ce qu'elle existe? Oui, elle s'appelle Israël. Et le Rav Kook l'a dit, c'est Shira Shirim Asher Lishlom. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant réétudier Shira Shirim. Selon cette compréhension-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui.
D'autres questions?
Je viens poser une question. Bonjour,
oui.
Raph.
Bonjour.
Ça me fait penser aux quatre espèces pendant la fête de Soukhot. Est-ce qu'il y a un lien? l'union des quatre espèces.
Il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien, les quatre espèces, les quatre enfants, il y a toujours quelque chose. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Si on dit que les quatre espèces sont liées aux quatre enfants de la Haggadah, que le Chacham, c'est le Etrog, que le Racha, c'est le Hadas, que le Tam, c'est le Lulav, et que le Sheino de Alishol, c'est le Arava, à ce moment-là, eh bien, le Chacham, lui, il chante la chanson de l'individu, puisqu'il dit
voilà.
Qu'est-ce que c'est que toutes ces halakhot. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la pratique de la halakha. Le Racha, lui, il a un problème parce qu'il veut se connecter à autre chose. Il dit « Ma voda azot lachem ». C'est quoi cette particularité du peuple juif ? Moi, je suis un humaniste. Et le Tam, lui, il dit « Mazot » et on lui raconte toute la sortie d'Égypte. Donc, il est connecté au peuple juif. Et le Sheino de Alishol, il est tellement la tête dans les nuages, comme on dit, qu'il est connecté avec la création tout entière. Mal à poser la question, c'est trop abstrait pour lui. Et donc, si vous voulez, effectivement, vous avez le lien entre ces quatre enfants, ces quatre espèces et les quatre chansons, bien évidemment.
Merci.
Oui, David.
Oui, je rebondis encore sur cette histoire de Shira. Ça me fait penser quand on... à Shabbat Shira et à le septième jour de Pessah, on chante en plus dans la prière à Shira Keshira. La dernière, c'est à Shira Keshira d'Israël. Elle n'existe pas encore. C'est quand c'est comme un shir prophétique quand le Mashiach arrive, quand la Géoula arrive.
Que tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'il y a marqué Az Yashir Moshe, vous venez Israël. Yashir, c'est au futur. Normalement, on aurait dû avoir marqué Az Shar Moshe ou Vene Israël. Mais c'est Yashir. Az nous dit, Srachme Asod, que Az Yashir. Az Begematria 8. Donc, c'est lorsqu'on arrive dans le 8e jour qu'il y aura la véritable chanson, la dernière chanson.
Moi, je trouve cet enseignement d'ensemble du Rav Kook.
Ne pensez pas qu'on a évoqué tous les livres du Rav
Kook. Oui, c'est pour ça.
Mais,
c'est énorme. Bon,
Meïra, il y a une question, parce que les questions de Meïra durent 3 minutes. Donc, si j'attends, on n'aura plus le temps, comme la semaine dernière.
Alors, je me dépêche.
Vas-y.
Juste pour savoir, qu'est-ce qui n'a pas été encore... vous avez dit que le rêve, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas encore réalisées.
Il y a fait. Très bonne question. Quelle est la dimension dans la Torah du Rav Kook qui n'a pas encore été réalisée ? Eh bien, le Rav Kook va nous enseigner, par exemple, dans un autre livre qu'on n'a pas évoqué. Voilà, vous voyez, c'est ma faute. Donc, on l'évoque maintenant, grâce à vous, Meïra. C'est le livre qui s'appelle Oroth Israël. Pas Oroth Eretz Israël, mais Oroth Israël. Oroth Israël, où le Rav Kook nous explique la dimension de Israël ve Yeshurun. Eh bien, cette dimension de Yeshurun qui est en fait, alors Yaakov, on connaît, c'est notre dimension d'exil. Israël, c'est notre dimension de résurrection nationale. Et Yeshurun, c'est lorsque nous pouvons enfin avoir le message prophétique envers le monde entier. Eh bien, ça, on n'a pas encore réalisé, puisqu'on est en train de finaliser notre dimension d'Israël pour devenir Yeshurun. On est dans les balbutiements de Yeshurun, mais on n'est pas encore.
Donc, alors, on va changer de nom de Israël en Yeshurun.
Bien sûr. De la même façon qu'on a arrêté d'être des Juifs et qu'on est redevenu Israël, on va devenir Vayi Yeshurun Melech Beitasef Rashéam Yachat Shifte Israël.
Merci.
Super.
Il reste 2 minutes, les amis. Est-ce que vous avez encore une question ? Oui, il y a une main qui se lève.
L'essence de mon Yeshurun.
Tu es d'accord. Alors, ma tribu.
L'essence de mon Yeshurun. Juste explication, parce que c'est un mot.
La racine du mot Yeshurun, c'est la même que le mot Israël. Yeshurun, c'est Yashar El Anouk. Israël, c'est Yashar El, Veyeshurun, Zeyashar, Nun. Donc, c'est la capacité d'arriver à dévoiler Nun Sha'arei Bina.
Nun Sha'arei Bina,
Nun. C'est encore une étape au-dessus.
50.
La Madima, Mazedima, Mazemala.
Pardon?
Mazedima.
Bina, Bina, Bina.
Ah, Bina, ok.
Rav, on a une question sur le chat de Ariel. On m'a dit qu'il y aurait un livre qui parle de psychologie écrit par le Rav Kook.
Un livre de psychologie qui est écrit par le Rav Kook. Il y a un livre qui s'appelle L'Inevuchéador du Rav Kook, qui est fantastique également. Par exemple, dans L'Inevuchéador, il parle de la théorie d'évolution et il dit qu'il n'a aucun problème avec. Mais ce n'est pas un livre de psychologie, c'est un livre qui est un peu genre un mauvais Nevuchim de son époque. Un livre de psychologie. Il y a un livre qui s'appelle Psychologia chez la Rav Kook, mais ce n'est pas un livre du Rav Kook. C'est
tiré de
la psychologie du Rav Kook.
C'est les gens qui ont pris des enseignements du Rav Kook et qui disent voilà, ça c'est les enseignements de la psychologie du Rav Kook. Mais ce n'est pas un livre écrit par le Rav Kook. Je ne crois pas. En tout cas.
Mais c'est vrai que moi. Donc, on va s'arrêter là. Je vois que le Rav Cherki est arrivé.
Et bien voilà, Chazak ou Baruch.
Chazak.